deuxième partie, toujours avec Steve Vai et Corinne.
Oui, je joue bien moins bien de la guitare, mais peut-être que je lis plus de romans noirs que lui. Donc, comme je l'ai annoncé, je vais continuer à faire le rattrapage, que j'appelle. Un roman, alors lui paru en 2019 par contre, mais en février, donc un peu plus de 6 mois, il avait échappé à notre sagacité. Ce roman s'appelle « Une année de cendres ». Il est de Philippe Huet et il est paru, donc en février 2019, chez Rivage Noir. Évidemment, on a l'impression de parler de livres anciens, mais voilà, il suffit de demander à son libraire, vous les avez dans les 48 heures, s'ils ne sont pas encore dans les rayonnages.
C'est vrai que les libraires ont tendance à vite débarrasser les tables pour mettre les suivants. Mais ils sont un peu obligés.
Voilà, mais malgré tout, on peut très 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 facilement les obtenir. Comme d'habitude avec Philippe Huet, nous ne sommes pas loin du Havre. Et même, on y est complètement. Pour un prologue qui se passe juste après la Deuxième Guerre mondiale, après que la ville fut rasée par les bombardements, puis en 76, lorsque les gros containers, quand les méga gros pétroliers, les autres gros bateaux commencent à envahir les quais. Revenons en 1946, la ville suinte la misère. Pas loin des camps américains, regorge de victuailles, de cigarettes, d'essence. Puis dans les camps américains, il y a des soldats, donc ça aime bien les petites pépées françaises. Situation idéale, évidemment, pour transvasement, donc des trafics en tout genre, d'un côté, de l'autre. Situation idéale pour que des Corses débarquent. Eh oui, malgré la météo très funeste pour des Méditerranéens, il y a des Corses qui vont arriver pour organiser ces petits trafics. Et ils vont largement prospérer. 1976, les Corses font désormais partie de paysages havrais et tiennent carrément le haut du pavé. C'est devenu des bourgeois. Hein. Ils sont installés dans le centre-ville et ils sont reçus par tout un chacun. Trafic en tout genre, ça reste à... Allez, c'est plus à petite échelle, mais c'est pas très ample. Le gang des Libanais débarque et décide d'utiliser les grands moyens pour développer le marché de la drogue entre Le Havre et New York. Et oui, au fur et à mesure de l'industrialisation et des grands porte-containers, on peut aussi mettre beaucoup plus de coke et d'autres produits illicites dans les containers. La guerre des gangs est déclenchée. Premier coup, les Corses désinguent quelqu'un autour du gang des Libanais et organisent une mise en scène tout à la fois macabre, mais complètement délirante aussi, un avertissement qui doit tenir le camp adverse à distance. Mais c'est sans compter Bernard Coutard. Bernard Coutard, c'est lui qui a trouvé, il était tranquillement en train de pêcher au bord du quai, et puis il voit une capsule arriver, dedans un cadavre, et dedans d'autres choses qu'un cadavre. Alors Bernard Coutard, ancien ouvrier de l'imprimerie, qui découvre ce cadavre, il se prend à rêver un peu. Et puis il y a Gustave Mazurier, tout jeune journaliste qui veut découvrir le fin mot de l'histoire. Gus, les fidèles de Philippe Huet le reconnaîtront. Mais là, il est tout jeune. Tout jeuneau, il veut faire sa place. Et puis, dans les personnages principaux, il y a aussi l'inspecteur Toussaint Kozzoli. Alors, d'où il est, lui? Voilà, lui aussi est fraîchement débarqué de Corse. Ce roman, ça sent le rouletabille. Ça fleure bon le Tintin au Havre. Des truands, des vrais, parfois très branques quand même. Hein. Un journaliste futé, malin, un flic, lui aussi, malin, futé. Au milieu, un trio magnifique. Bernard Coutard, je vous en ai déjà parlé, pas grand-chose à faire, sauf peut-être à emmerder son monde. Son meilleur pote, Raoul Castarin. Et puis, il y a la resplendissante Georgette Delarue. Je cite Philippe Huet, une belle femme encore pour quelques années. Pressée d'en profiter. Elle est veuve, propriétaire d'un pavillon coquet à une centaine de mètres du chalet. Et Bernard Coutard a conscience d'être entré dans sa ligne de mire. Et oui, le pêcheur, lui, il va être sacrément pris à l'hameçon. Ces trois-là, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils vont foutre le why dans l'enquête et les trafics en tout genre. La question, à qui profite le crime? À vous le saurez, en lisant le très jouissif « Année de cendres » de Philippe Huet. Un dernier mot, Philippe Huette a été très très longtemps journaliste dans un grand quotidien
PQR.
La PQR, pardon.
Presse quotidienne régionale.
Voilà, il a été journaliste au Havre aussi. Il connaît sa ville sur le bout des doigts, son histoire, et il s'est magnifiquement glissé dans sa narration, sans didactisme aucun, des anecdotes de l'histoire de cette ville, et ça, c'est totalement délectable. Voilà, je rappelle, Une année de cendre, Rivage Noir, Philippe Huette.
Alors moi j'enchaîne, tu dis que tu fais du rattrapage, eh ben alors moi je vais en faire encore mieux, parce que le roman dont je vais vous parler est paru en 1918 au Japon. Et il vient tout juste d'être traduit en France aux éditions Piquier. Lesquelles éditions Piquier sont spécialistes
De l'Extrême-Orient, on peut dire de l'Orient, Orient, Extrême-Orient.
Un roman asiatique. C'est un très court roman d'un monsieur qui s'appelle...
Alors vas-y.
Je m'étais entraîné, mais Tanizaki Junshiro.
C'est pas mal.
Le roman s'appelle, dans sa traduction française, Dans l'œil du démon. Et il est traduit du japonais par Patrick Honoré et Ryoko Sekushugi. Gushi, pardon. Alors je précise traduit du japonais parce qu'en fait, on a lu récemment un roman coréen qui était traduit de l'anglais à la demande de l'auteur coréen.
Oui.
Donc du coup, je précise bien qu'il est traduit du japonais. Alors, c'est un roman qui met en scène deux protagonistes. Alors, je ne vous dirai pas les noms, ça m'évitera de mal les prononcer.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ce n'est pas la peine de...
Un amateur de polar et de cinéma, un peu rentier. Et le second, c'est un écrivain. Ils sont amis, mais l'écrivain n'est pas des plus connus. Un coup de téléphone, et le premier, donc l'amateur de polar et de cinéma, demande au second, l'écrivain, s'il veut assister à un assassinat en direct. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du snuff movie ni rien du tout.
En 1918, oui, c'est
en 1918, bon, il y avait à peine le cinéma. Alors, j'en dévoilerai pas. Enfin, si, je vais quand même en dévoiler un peu plus. L'écrivain est donc habitué aux excentricités de son ami. Il hésite, mais finalement, il se rend au rendez-vous et assiste bel et bien à un meurtre. Non sans avoir précédemment dû résoudre quelques mystérieux messages codés pour parvenir à la bonne adresse. C'est un peu du Sherlock Holmes. Alors là, comme je ne vais pas en dévoiler plus ce coup-ci, le roman est très court, 130 pages, donc si je vous raconte tout, ça ne serait pas la peine de lire, c'est dommage. Le meurtre, il est à la fois essentiel et pas vraiment. Et pourtant, il y a une véritable intrigue. Alors il y a trois parties, en gros, dans ce roman. Il commence par une longue description, c'est normal, il nous présente les personnages, les lieux, je précise qu'on est à Tokyo. Il décrit le meurtre, les rituels et l'état d'âme des personnages, ceux qui regardent, ceux qui agissent. Tout ça dans une langue très très poétique, très légère, faussement simple. Les traducteurs ont dû bien bosser pour rendre cette limpidité. Même limpidité même dans la nuit, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nuit, dans les interstices, dans les rues parfois lugubres. La deuxième partie est un long dialogue entre les deux amis, interloqués, ébahis par le meurtre et dubitatifs sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. On alternera ensuite entre un récit, une espèce d'enquête et des passages épistolaires entre les deux personnages et un très beau twist final. Je ne pense pas que ça se disait comme ça en 1918.
En japonais, tu sais comment on dit twist ?
Twist !
Ça, c'est carrément...
Probablement, puisque de toute façon, le twist, c'est un nom, ça ne doit pas exister non, la traduction japonaise, elle n'existe pas en français non plus. Malgré cette lenteur que j'évoquais il y a quelques instants, il y a une véritable tension narrative qui est digne presque d'un thriller, du moins dans la dernière partie du roman. L'avantage, c'est comme il ne fait que 130 pages, je l'ai déjà dit, on peut le lire d'une traite, même si en fait, vu l'écriture, la qualité, on déguste chaque page à chaque page. En même temps que le côté polar, on trouve beaucoup de ce qu'on a aimé dans la littérature classique japonaise, enfin du moins dans le peu qu'on connaît, c'est-à-dire genre Kawabata. La lenteur, je l'ai déjà dit, un brin d'érotisme, des geisha, enfin là il y en a au moins une, parce qu'il n'y a pas de geisha dans un roman japonais, c'est pas vraiment un roman japonais.
Tu dis comment toi ?
Une geisha.
Geisha ?
Geisha, oui. Non, geisha ?
Oui, geisha.
Geisha,
il semble.
Oui, oui. Ah, c'est parce que je l'ai mal écrit du coup, je l'ai mal dit. Donc, et puis il y a aussi de superbes jeux de lumière, de clair-obscur, la nuit, le jour, c'est vraiment très très beau. Et c'est aussi, c'est ça qui est intéressant, on le voit que vers la fin, un roman d'amour. Bon, d'amour un peu insolite et parfois plutôt glauque. D'ailleurs, le roman, dans sa traduction italienne, s'appelle « Fantaisie morbide », ce qui lui va très bien. Le titre français, dans l'œil du démon, évoque, lui, quelque chose de sous-jacent à tout le roman, qui est en fait, qui est vraiment le démon de celui qui agit, qui tue, ou de celui qui regarde par l'interstice d'un volet clos.
Il aurait pu en parler à Hitchcock.
Tout à fait.
Voyeurisme.
Pour finir, donc, quelques précisions sur l'auteur que, personnellement, je ne connaissais pas, mais qui est une star au Japon, d'après ce que j'ai pu lire. Beaucoup de ses romans ont été...
Mort, on suppose, mort.
Ah bah oui, il est né en 1886, et il est mort en 1965. Beaucoup de ses romans ont été adaptés au cinéma. Des films qu'on ne connaît pas forcément, à moins qu'on soit vraiment adepte de cinéma asiatique. Et les éditions Piquet en ont déjà traduit deux autres de cet auteur. Donc, je vais essayer de le dire comme il faut. Tanizaki Junichiro. Voilà. Le roman s'appelle « Dans l'œil du démon », traduit aux éditions Piquier.
Et sans transition, je suppose, parce que ça m'étonnerait qu'on écoute un morceau du théâtre No.
Non.
Hein, je pense
que... Il y a bien du rock ou du jazz japonais, mais non, en fait, juste qu'il y a un nouvel album de Lucky Peterson qui sort bientôt. Donc, on va écouter un extrait. Le premier morceau qui s'appelle Just Warming Up. Non, c'est le titre de l'album, ça. Just Warming Up. Le premier morceau s'appelle 50 Years. Et 50 Years, parce qu'en fait, c'est un petit blues qui célèbre ses 50 ans de carrière à Lucky Peterson, lequel n'a que 55 ans. Il faut dire qu'il a commencé à jouer avec Jimmy Smith à l'âge de 5 ans. Donc le morceau s'appelle 50 Years. Lucky Peterson, 50 years.
Voilà, 50 ans de carrière. Nous, notre 20e...
Et il a toujours le blues, saison. Mais comme ça, c'est sa vie, c'est, il va le garder encore longtemps.
Eh bien, on ne va pas avoir le blues en lisant le roman dont je vais vous parler. C'est le plus récent de mes rattrapages, puisque paru au printemps 2019. C'est un roman jouissif. Un cri de colère, empli de rage, mais aussi d'amour. Une utopie aussi, complètement immorale. Je rappelle que le roman noir peut... et est souvent immoral. Mais attention, jamais amoral. Et celui-ci n'échappe absolument pas à la règle. Le titre, parce qu'il faut quand même que je vous dise le titre maintenant.
Quand même mieux, oui.
Oui, ça s'appelle « Péter les boulons ». Et son auteur en est Laurence Bieberfeld. C'est sorti aux éditions Inuit, In-I-N, 8 en chiffres, en mai. On va y découvrir Irène, mère de famille à la ramasse, chômage, largement et depuis longtemps en dessous du seuil de pauvreté, mais une énergie intacte. Je cite « Une rage inimaginable accumulée par 50 générations de gueux ». Elle fait partie de ces humains qui, je recite Laurence Bieberfeld, font une connerie au regard de la loi chaque fois qu'ils respirent, qu'ils mangent, qu'ils travaillent, qu'ils aiment, qu'ils se défendent, qu'ils existent. Alors Irène, quand elle retrouve son père amputé d'une partie de ses tripes à cause d'un chirurgien qui abuse de son pouvoir et qui abuse aussi de son scalpel, elle pète un câble, elle disjoncte, en gros, elle burn outis. Bref, elle va décider de rendre une justice que l'on pourrait qualifier d'arbitraire, voire d'expéditive. Marquer, c'est mieux. Pour échapper à la police, être expéditive, c'est mieux. Sa cible, au début du mois, les employés des services, entre guillemets, dits sociaux, qui charcutent les familles, les séparent, les enferment. Mais évidemment, bien sûr, tout ça pour leur bien, hein. Parce que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas élever les enfants, on n'a pas de morale. Quand on n'a pas d'argent, quand on est trop pauvre, ben si un enfant a un peu des problèmes, si, il faut l'enfermer. Donc, une de ses premières cibles, outre le chirurgien, bien évidemment, ça va être une assistante sociale, par exemple, qui aimait nous considérer comme égales, mais elle l'était un peu plus que moi quand même. Et donc, ça va dézinguer. À coup de tout ce qui se trouve sous la main, Irène rend la justice sa justice. Très vite, elle partit toute seule. Elle arriva beaucoup. Elle va être rejointe par ses filles, puis par tous les petits boulons qui pâtissent des rouages du système. La mère Courage, comme je l'ai appelée, fera des émules et sa tribu, débordante, elle aussi d'amour et de rage, va exploser. Je n'emploie pas ce terme au hasard, va exploser de bien belle manière. Évidemment, tout ça, c'est pas bien crédible. Vous en conviendrez. Et ce compte social, très beau compte social, ne durera que le temps d'un roman. Un roman noir. Mais ça fait un bien fou que de suivre les tribulations de la bande à Irène, d'éclater de rire, parce qu'on éclate souvent de rire dans ce roman, aux inventions souvent...
Il y a d'autres choses qui éclatent d'ailleurs dans le roman.
Oui, des inventions souvent invraisemblables de Laurence Bieberfeld, mais on a vraiment envie d'y croire. Cependant, il ne faudrait pas s'arrêter au côté jubilatoire de ce roman. L'écrivain raconte, sans dénoncer, grande force, un système dégueulasse qui se déroule juste sous nos yeux. On les ferme ou on détourne le regard, souvent. Et ce récit nous dessille le regard, nous désensable les esgourdes. Le mot qui me vient à l'esprit pour qualifier de ce roman, c'est tout simplement salutaire. Oui, c'est un roman salutaire. Donc ça s'appelle « Péter les boulons », c'est de Laurence Bieberfeld, et c'est aux éditions Inuit. Roman que 6 mois, on le trouve encore facilement. Et voilà, la première émission de notre 20e saison se termine. On va vous dire, comme on a pris l'habitude, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt.
À la prochaine fois. Bonsoir.
Bonsoir.